おかきおかき。
Dialogue entre Congolais présents avec Alain Hiroux à la présentation.
Bonsoir, un seul thème dans cette émission, évaluation des opérations Kimia 2 au Nord Kivu. Le commandant des forces de la MONUC, le général Babacar Gaye, salue le progrès significatif de ces opérations. Quel est à ce jour le bilan de ces opérations? Quels sont les mécanismes mis en place pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones jadis occupées par les FDLR? Nos invités sont colonel Jean-Paul Dietrich, porte-parole militaire de la MONU, qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir, colonel.
Oui, bonsoir.
Ernest Kaviro, député national RCD-KML, parti membre de la majorité présidentielle. Il est en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Didier Bitaki, membre du comité national de suivi des accords de Goma et porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu. Bonsoir, Didier Bitaki.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les opérations Kimia 2 en Nord Kivu connaissent beaucoup de progrès. Affirmation du commandant des forces de la MONUC, le général Babacar Gaye. Plusieurs points forts des FDLR sont désormais sous contrôle des FARDC. Le général Babacar Gaye l'a déclaré hier mercredi à Goma à l'issue d'une mission d'évaluation des opérations Kimia 2. Il s'agissait d'évaluer tous les aspects de cette opération, notamment ce qui concerne le nombre des FDLR rendus et rapatriés dans leur pays d'origine. Même s'il y a eu des violations des droits de l'homme qui ont été observées et qui sont liées aux problèmes de discipline, le commandant des forces de la MONUC reconnaît la volonté des FARDC de mettre fin au phénomène FDLR, il l'a dit au micro de Sifa Maguru.
Lorsqu'on mesure les difficultés que rencontrent les FARDC, notamment en termes de soutien, de retard dans le paiement de salaire, il est clair qu'il y a de leur part un engagement qui est réel. Il y a vraiment une volonté de régler ce problème du FDLR. Ensuite, il y a sur le terrain, dans le Nord Kivu, des progrès qui sont à noter également, dans la mesure où il y a des zones qui étaient tenues par les FDLR, qui étaient vraiment des points forts qui aujourd'hui sont entre les mains des FARDC. Même s'il reste encore, notamment dans la zone de Wadi Kale, un Toto qui est au sud de Kibwa, des regroupements des FDLR, mais c'est l'intention des FARDC de traiter ses poches. D'une manière générale, il faut convenir qu'il y a eu des progrès réalisés dans cette action contre les FDLR.
Colonel Jean-Paul Dietrich, vous êtes porte-parole militaire de la MONUC. Quel est à ce jour le bilan de ces opérations Kimia 2 au Nord Kivu?
Bon, en fait, il faut dire que l'opération Kimia 2 se déroule pas seulement au Nord Kivu, mais aussi, surtout actuellement,
au Sud Kivu.
Au Sud Kivu, tout à fait. Donc, le bilan d'un point de vue militaire est assez positif, comme mon commandant de la force vient de le dire. 70% de tous les sites qui étaient auparavant occupés par les FDLR sont maintenant sous contrôle des autorités étatiques. Mais c'est vrai, les FDLR ne sont pas encore neutralisés. En fait, un des buts de l'opération Kimia 2 vise exactement cela. Mais c'est une affaire de mois, de plusieurs mois, parce que, comme vous le savez, les FDLR évitent les combats, ils se retirent dans des régions très éloignées, même dans les provinces voisines des Kivu, et quelques éléments sont déjà partis au Burundi. Donc, le problème n'est pas du tout réglé. Par contre, ce qui est très bien, il faut le dire, les FARDC ont eu un succès assez impressionnant, parce que on n'a pas vraiment vu cette réaction, cette possibilité des FARDC depuis quelques mois, surtout quand ils se sont battus contre le CNDP. Donc, de ce côté, une force, les forces armées de la République démocratique du Congo, avec beaucoup de succès sur le terrain, avec une cohésion qui est très importante pour combattre un ennemi qui est maintenant un ennemi commun, un ennemi de l'extérieur, ce qui donne force et motivation à cette armée qui est toujours en transition et qui fasse beaucoup de difficultés, comme le commandant de la force vient de dire.
Colonel Dietrich, avant de donner la parole à Didier Bitaki et Ernest Caviro, il y a cet auditeur Placide Boulaïm ou de Kalemi au Katanga qui voudrait savoir combien des FDLR ont été rapatriés, combien ont été capturés, combien ont été tués dans ces opérations Kimia 2. Très rapidement.
Oui, bon, je pense que demain, les FRDC vont informer, vous donner des chiffres. Nous, on a un nombre de quelques centaines tués et arrêtés. On peut dire, par contre, d'une façon assez précise, que plus que 1104 combattants ont été repatriés, à peu près le même nombre de dépendants, et en même temps, le HCR a repatrié plus que 9000 autres personnes vers le Rwanda.
Didier Bitaki, vous êtes membre du comité national de suivi des accords de Goma et porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu. Votre lecture par rapport à ce bilan mi-parcours des opérations Kimia 2?
Bon, écoutez, s'il faut me permettre de donner le bilan, d'abord je ne suis pas membre de cette opération, moi-même je suis dans le comité national de suivi. Mais la lecture que je peux faire de ce bilan, c'est que la MONUC s'est précipitée à avancer un bilan positif, contrairement à ce qui est vrai sur le terrain. S'il faut peut-être parler de bilan, on peut parler du bilan positif par rapport à la volonté exprimée par le gouvernement congolais d'en finir avec les FDLR, la question ou la problématique FDLR, et non pas parler de bilan dans les faits. Parce que je veux vous rappeler que si vous me permettez alors de donner cette version des faits.
Très rapidement.
Jusqu'à présent, la MONUC ne nous a jamais dit, ou la communauté internationale est répétée au Congo par la MONUC, ne nous a jamais dit il y a combien d'éléments armés des ex-FAR et Interahamwe qui sont entrés au Congo en 1994. La MONUC, qui représente également les Nations Unies au Congo, ne nous a jamais dit il y a eu combien de civils rwandais qui sont entrés par les frontières de Goma et de Bukavu vers la RDC jusqu'à présent, maintenant, voici maintenant 14 ans. Maintenant, qu'est-ce que moi je reproche à cette précipitation de la MONUC? C'est lorsqu'ils nous disent qu'ils ont rapatrié, je ne sais pas, 1500 combattants, 1200 et consorts, ils ont rapatrié 12 000, mais ils oublient, cette même MONUC oublie que c'est toute une nation, toute une population d'un pays qui s'est déversé sur le sol congolais avec armes et munitions et tout le bien de l'État. Et l'État d'Agarimana, il se trouve actuellement au Congo. Rappelez-vous que le RCD avait fait pression qu'il voulait traquer les FDLR, je ne sais pas les Interahamwe et consorts, mais le RCD a contrôlé l'ensemble du territoire de l'Est. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais a déployé des militaires qui se trouvent dans les anciennes positions que le RCD occupait, mais les FDLR, on ne pensait plus qu'il y aurait encore Interahamwe. Mais où sont venus ces Interahamwe? Où est-ce qu'ils se cachaient? C'est dans les mêmes forêts, dans les mêmes entités où ils se retrouvaient pendant qu'ils étaient pourchassés par des armées, notamment les Rwandais, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. C'est dans ces mêmes forêts où ils se trouvent aujourd'hui. S'ils ont bâti repli dans les zones reculées, ce n'est pas à dire qu'ils ont été totalement anéantis.
C'est
un écho de Radio Capit que j'aurais appelé. Il y aurait certaines autorités qui ont déclaré que réellement les opérations des trains de l'air avaient assez 80% pour ça. Mais au lendemain de cela, il y a eu des massacres dans différentes zones, notamment le massacre au niveau du Grand Nord de la province du Nord Kivu, des massacres dans les Walikale, notamment à Busurumbi et ailleurs, des massacres par-ci, par-là, par qui? C'est pas le même FDLR. Voilà pourquoi, je ne sais pas, oui.
Donc, vous êtes encore avec nous dans cette émission, ne monopolisons pas la parole. On a compris que d'après vous, la MONUC a proposer un bilan précipité. Nous allons donner l'occasion, vous allez revenir sur certains éléments dans cette émission, nous allons donner l'occasion à Ernest Caviro d'intervenir. Ernest Caviro, vous êtes député national RCD-KML, parti membre de la majorité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau du débat?
Oui, je suis d'abord député national, c'est-à-dire que les questions qui affectent la population m'affectent directement. Et je ne peux rien dire avant d'abord de rendre hommage au courage de ceux qui ont initié toutes ces opérations par rapport à ce qu'il y avait comme situation entre le Rwanda et le Congo à l'époque. Je rends hommage à toutes les victimes civiles qui ont été abattues et par des gens des forces armées, et par des tiramoués, et par des gens des bandes armées, et par certains maïmaïs égarés, et par des causes naturelles parce qu'ils étaient dans des mauvaises situations. Je rends hommage aux enfants qui n'ont pas pu étudier à cause de toutes ces opérations, aux gens qui ont perdu leur case, leurs biens dans les sites libéraux, partout là-bas, l'Oualikale, tous ceux qui ont eu à souffrir, ceux qui vivent dans les camps des déplacés, qui ressemblent parfois à des camps de la mort. Je rends hommage d'abord à tous.
Ernest Kaviro.
Non, j'ai
dit. Ernest Kaviro. Allez-y droit.
Non, laissez-moi, j'ai mon temps, je le gère, je sais comment je fais.
Je vous en prie, répondez à la question.
Je voulais dire une chose par rapport à ces opérations. Bien sûr, l'idée était noble, bien sûr, il y a eu des résultats partiels qui ont été atteints, qui sont indiscutables, et là, j'ai rends hommage aux parts de ceux qui sont tombés au fond et ceux qui sont blessés, mais je dois dire qu'il reste encore beaucoup à faire dans l'approche et dans la réalisation. Dans l'approche, moi, je pense que l'approche de cette question, de la pacification du Nord Kivu, ne saurait être réduite à la paix militaire. En plus, la question des pacifications ne se limite pas à la question militaire, pour la simple raison que, moi, je trouve qu'il y a un déficit d'implication de la société civile et de la société politique et aussi de la société coutumière. Je peux dire cela comme une première remarque globale, mais d'une manière générale, c'est déjà un pas en avant que nous avons fait, mais c'est un pas que nous devons parfaire et compléter pour arriver à des résultats durables qui doivent mener à une paix tout aussi durable.
Commandant, colonel Jean-Paul Dietrich, hein, vous avez suivi Didier Bitaki. Pour lui, la MONUC a dressé un bilan précipité.
Bon, pour revenir peut-être aux chiffres, on pense que dans les années 94, il y a à peu près eu 15 000 FDLR qui sont rentrés. Maintenant, on estime leur nombre à moins que 6 000, donc une forte diminution. Bon, j'ai donné un bilan plutôt militaire. C'est vrai, toutes ces opérations ont aussi eu un effet très important sur la population civile. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déplacées et qui n'ont pas encore trouvé leur paix. En fait, ils sont en mouvement depuis des années même. Mais c'est pas seulement à cause de qu'il y a deux. Surtout, c'est dû au climat d'insécurité générale qui régnait dans ces deux provinces depuis très longtemps. Mais quand même, il faut dire que la situation sécuritaire a changé dramatiquement après la fin du CNDP, plutôt la fin du général Nkunda qui a été arrêté, et aussi avec l'intégration de la majorité de toutes les groupes armés au sud et au nord Kivu.
Didier Bitaki, est-ce que vous êtes du même avis qu'Ernest Kaviro, que l'approche choisie a été mal négociée, c'est-à-dire il n'y a pas seulement l'aspect militaire qui doit intervenir dans la résolution de ce problème de sécurité à l'est du pays, et qu'il y aurait un déficit d'implication de la société civile et coutumière notamment?
Bon, écoutez, d'abord, l'honorable Ernest était député national. Vous avez vous-même suivi toute la polémique qui a entouré l'initiative des opérations conjointes contre les FDLR. Ce qu'il faudra peut-être à ce stade, ce qu'il faudra dire, c'est que le gouvernement a vraiment pris une initiative noble qui consistait plutôt à stabiliser la région, mais pas seulement la RDC, mais toute la région, afin que peut-être un jour, il y ait de la sécurité, de la paix en RDC. Parce que c'est la RDC qui peut devenir un théâtre où tout devait se produire, où tout devait se faire. Je salue l'initiative du gouvernement, je salue l'initiative du chef de l'État, qui a pris le courage d'étendre la main au gouvernement rwandais afin de résoudre la question de l'insécurité qui bâtit son plein dans à l'est du pays. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, je ne sais pas si tout le monde pourra savoir ce qui est planifié au niveau de l'état-major, comme les députés l'ont voulu, mais ce que moi, je suis en train de critiquer à ce stade, c'est lorsque on pense que parce que la ville de Goma, la ville de Bukavu, la ville de Beni et Butembo sont actuellement sécurisées, ça qui est sécurisé, c'est fini, donc il y a un résultat positif. Niet. Le résultat positif, c'est que autant mieux sécuriser encore le milieu rural que sécuriser les grands centres-villes. Parce que la population, tout nous produit de vivre. Vivre où? C'est dans les intérieurs. Mais lorsque les intérieurs sont en insécurité, en instabilité permanente. Il y a, vous avez parlé des déplacés et consorts. Les déplacés sont dans les cas ici. Lorsqu'il y a 200 000 qui sont rentrés, c'est-à-dire qu'il reste 1 800 000 déplacés qu'il faut encore rapatrier et on va les rapatrier où? C'est dans des zones instables. C'est pour cette raison que, s'il faut revenir au bilan que la Monique avait donné, ce bilan est encore négatif, beaucoup reste à faire. Mais on ne peut pas se féliciter seulement du fait que les délais se sont repliés dans les forêts et que ceux qui étaient fatigués parmi eux se sont rendus, mais on n'a pas exterminé les délais. On n'a pas tué tout le monde. Et les autres sont encore dans les forêts, Mourouana Chaka. Et là, et les autres, et les autres, et les autres. Mais finalement, aujourd'hui, on dresse un bilan. Demain encore, peut-être il y aura des causes. On va encore revenir sur de nouvelles stratégies. C'est pourquoi il faudra que le député vraiment nous donne le temps d'analyser objectivement cette situation et de proposer des solutions peut-être qui peuvent devenir installées pour la population qui souffre dans les forêts, ensemble avec les acteurs impliqués dans la question. Voilà ma considération.
Ernest Caviro.
Oui, j'ai suivi l'idée du CACI, je vais les rassurer tout de suite. Les députés n'ont jamais cherché à connaître les plans au niveau de l'état-major général. La préoccupation des députés que lui-même a, c'est que la population soit protégée et que les gens qu'on veut sécuriser soient impliqués dans leur propre sécurisation. Nous voulons que nous puissions avoir une paix durable. Et la paix durable ne peut pas se faire seulement en attaquant les côtés militaires. Et c'est ça l'exigence tout à fait noble, légal et constitutionnel des députés, de tout, et même de toute la population. Moi, je voudrais dire une petite chose ici. Vous savez que le Nord Kivu a beaucoup souffert depuis 1994 jusqu'à ce jour de cette situation. Ces gens sont venus, le colonel de Triche vient de dire qu'il y en avait 15 000. Dieu soit loué qu'il ait cette précision-là, et qu'il y en a 6 000, et que donc, on peut dire que ce sont ceux qui sont venus dont on peut soustraire les chiffres de 7 000 pour avoir 6 000. Ce qui serait par rapport à l'évolution des faits est tout à fait discutable et rentre pas dans ces débats. Mais simplement, je constate que le gouvernement a une bonne volonté. C'est celle de pacifier l'Est, celle de rétablir. Il y a même des initiatives privées telles qu'Initiative Plus qui a aidé les femmes et les enfants de Lubero que nous remercions. Mais ici, nous devons regarder là où nous allons, éviter que nous puissions laisser derrière des problèmes que nous pensons avoir résolus. Le premier problème, c'est que nous devons impliquer ceux qui doivent être sécurisés dans leur propre sécurité. Ça nous aurait aidé à casser les circuits économiques, les circuits d'approvisionnement, les circuits de complicité sans lesquels les FDLR n'allaient pas faire tous ces pas dans le Congo. Moi, j'estime que l'initiative de la MONUC, des FARDC, l'initiative de l'armée est bonne et qu'il faut la compléter nécessairement par une initiative amenant à la paix des cœurs, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse se leurrer. La présence des FDLR et des Intirahamwe a amené une recrudescence de l'intolérance ethnique qu'il faut considérer comme un des problèmes que nous avons parfois à affronter. Il y a des personnes et des personnalités, pas beaucoup, mais quand même qui sont là, qui ont utilisé, qui ont été au front par rapport à des questions ethniques. Il y a des personnes qui ont été recrutées dans des groupes mi-armés, bien sûr sur la base d'un drapeau de patriotisme, mais sur la réalité d'une ethnie ou d'une colline. Tous ces colonismes-là sont à défendre. Il y a eu des erreurs dans l'intégration de l'armée. L'intégration de l'armée, ce n'est pas un geste qui peut être un événement, c'est un processus. Quelqu'un qui était dans une force qui combattait l'État, et directement vous le changez, vous lui mettez une autre tenue, il disait non, il faut une éducation civique, et surtout, il y a cette amplitude que je ne comprends pas à maintenir toujours les ressortissants du Kivu dans l'armée au Kivu, comme si l'armée était devenue paroissiale.
Merci.
Il y a enfin, quand vous faites des choses par rapport à une communauté, par rapport à une province, ça réussit toujours plus facilement quand il y a suffisamment de sensibilisation. Et là, au début des opérations, et c'est pour cela que j'ai initié une pétition contre cela, il y avait un déficit criant de sensibilisation et même d'information. Merci. Même le nom de l'opération Umuzi nous a été donné par le Parlement rwandais, pour ceux qui disent que le Parlement doit être concerné avec ces choses.
Merci.
C'est absolument faux.
Merci, Ernest Caviro.
Aujourd'hui,
Ce qu'il nous faut faire, c'est de ne pas faire les erreurs que nous avons commises pour que nous puissions faire de cette opération la toute dernière, mais bien la dernière pour la peau qui vaut.
Merci Ernest Caviro. Colonel Jean-Paul Dietrich, je vous ai vu hocher la tête hein, positivement quand Ernest Caviro parlait d'ethnicisme tout et tout. Donc je crois que vous semblez être d'accord avec lui qu'il n'y a pas que la solution militaire, mais qu'il y a plutôt un déficit d'implication de la société civile, des chefs coutumiers.
Bon, c'est fort intéressant de suivre toutes les personnes qui participent à cette émission. J'apprends beaucoup de choses. Effectivement, la question ethnique nous préoccupe beaucoup. Je ne veux, de mon côté militaire, pas y parler ici ce soir. Mais c'est clair, c'est même les FADC qui m'ont dit ça récemment quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, avec le commandement au sud Kivu. La situation militaire est une chose, la consolidation de tout le territoire qu'ils ont pu prendre est encore une autre, et effectivement la pacification même politique, solution politique pour régler ce problème reste là. Et je pense que la société civile joue un rôle très important au Congo, et donc je peux seulement encourager cette initiative et effectivement encourager les Congolais d'ici de s'y engager.
Il y a cet auditeur Ombeni de Goma en Nord Kivu qui rejette la déclaration du commandant en chef des forces de la MONUC selon laquelle l'opération Kimia 2 a des effets positifs car celle-ci ne favorise que le déplacement des FDLR dans ce coin du pays. Donc pour lui, au lieu que les FDLR soient anéantis, cette opération ne contribue qu'à les disperser dans la région.
Bon, c'est un point de vue qu'on peut comprendre, mais comme je vous ai dit, on a déjà pu déloger les FDLR de plus que 70% de leur site économique. Donc, dès le moment qu'ils n'ont plus le revenu et plus la possibilité de se réarmer et de vivre en paix, ou bien plutôt pas déranger en RDC, ils vont quand même réfléchir de trouver une autre solution, donc que le repatriement au Rwanda est vraiment une option.
Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs avant de poursuivre. Il y a des réactions qui sont pour ainsi que contre. Nous allons commencer par les réactions pour. Augustin Mwango de Kalima au Maniema remercie la MONUC pour son soutien aux FRDC, car selon lui, cet appui est d'une importance capitale. John Ntou et Bunga de Baraka au Sud Kivu estiment que le bilan de l'opération Kimia 2 est largement positif, mais le renforcement de mesures de sécurité pour la population est vraiment nécessaire. Machini de Manono Katanga salue cette opération Kimia 2 tout en demandant au gouvernement de multiplier les efforts et de bien payer les militaires car les rebelles sont encore sur le terrain. Quelques réactions contre. Lobo de Haru en province orientale pense que si nos frontières ne sont pas sécurisées après ces opérations Kimia 2, cela ne servira à rien. Isaac de Kindu au Maniema se demande pourquoi les FRDC et les forces de la MONUC parlent du succès des opérations Kimia 2 alors qu'il y a des cas d'enlèvement chaque jour par les FDLR au sud Kivu. Il y a Baheni de Sake au nord Kivu estime que bien que ces opérations Kimia 2 évoluent, une terreur règne au sein de la population en zone de combat. Pour lui, l'État doit assurer la sécurité de cette population qui souffre à Walikale. Didier Bitaki, une réaction par rapport à ces réactions des auditeurs.
Heureusement que les auditeurs ont réagi en justice. J'encourage ces auditeurs à nous faire des points comme cela. Mais s'il faut parler de ces opérations, encore une fois, je reprends d'abord le propos de l'honorable. L'honorable a évoqué une question très importante relative à l'intégration elle-même. Lorsqu'on était dans la guerre, on disait non, le problème était le FDLR. Il fallait donc le mettre hors d'état de nuire. Maintenant, le moment a été fini, était accordé à ceux qui faisaient ce bruit-là de faire la guerre contre le FDLR en toute liberté au sein des FRDC. Est-ce que les font-ils? Je dis non. En deuxième lieu, les FDLR ne sont pas congolais. Mais les FDLR connaissent mieux les forêts, les territoires congolais, mieux que même le véritable congolais natif de ce pays. Alors, ce que moi je conteste, c'est lorsqu'on dit que le bilan des opérations contre les FDLR est positif parce que les opérations ont réussi à les disperser, en ce moment-là, je ne suis pas d'accord. Le bilan peut-être de sécurisation et d'utiliser justement la fin de l'existence d'autres groupes armés nationaux, ce bilan est largement positif. Mais le bilan sur l'offre de l'air est négatif, il faut le reconnaître. Parce que dans le Walikale, je crois, les FARDC occupent les artères principales et les autres coins sont occupés par l'air de l'air, il faut le reconnaître. J'encourage les FARDC, peut-être un jour et nuit, à aller vers ces centres, vers ces sites qui sont encore sous la prise d'air de l'air, et peut-être qu'en ce moment-là, on peut dire qu'il y a des avancées positives qui se réalisent sur le terrain contre l'air de l'air. Lorsqu'on est en train de dire que le bilan est positif, alors qu'il y a des populations, surtout dans le Walikale et dans le Lubero, qui sont toujours martelés par l'air de l'air, en ce moment-là, quelles que soient les raisons avancées, on ne sera pas d'accord. Parce que le nombre d'aides de l'air qui reste sur le territoire congolais est peut-être 4 fois plus élevé que le nombre d'air 10 fois plus élevé que le nombre de d'aides de l'air rapatriés.
Didier Bitati.
Ils portent des armes.
Didier Bitati.
Ils ont besoin de la survie.
Didier Bitati.
Ils ont besoin de sur la population.
Didier Bitati.
Voilà pourquoi, oui, j'encourage les intervenants à abandonner ce discours de positivité et à aller vers les actions pour assurer tout le monde.
Voilà
ce que je pense. Aussi.
Permettez-nous de dialoguer afin de donner un peu plus de lumière aux auditeurs. Je vais revenir sur un point très rapidement avec vous, hein, en ce qui concerne l'intégration. Vous avez soulevé le problème d'intégration. Vous-même, vous êtes secrétaire de l'ex-groupe armé Maïmaï Kifoafoa. Où en est-on avec l'intégration de vos hommes?
Il faut répondre à cette question, je dirais. L'intégration, les ex-combattants Maïmaï Kifoafoa ont été mis à la disposition du haut commandement des forces armées de la République depuis le 30 janvier 2009. Aujourd'hui, c'est par obligation morale que je suis en train d'intervenir pour demander aux responsables militaires, donc à ce haut commandement, de considérer ces ex-combattants comme étant des éléments, d'abord, qui appartiennent à l'armée congolaise et qui remplissent des missions dévolues à l'armée, alors qu'ils ne sont pas jusqu'à présent reconnus en tant que tels. Donc, vous voyez ces inquiétudes. C'est pour cette raison que, d'ailleurs, l'honorable que je soutiens dans cette thèse, c'est pour cette raison qu'il a évoqué d'ailleurs la question de colonialisme, de tribalisme au sein de l'armée, je ne sais pas, des intérêts par rapport à une tendance politique. Je crois que la meilleure chose, c'est de rendre l'armée totalement apolitique et de considérer que tous les militaires, tous ceux qui décident d'œuvrer dans les FARDC doivent bénéficier des avantages, doivent rester dans cette armée en tant que Congolais, qui en est à un seul objectif, que de le faire d'une manière sectorielle, en divisant, en créant des postes de résistance. Peut-être pour s'en servir afin de continuer toujours à faire pression à l'État qu'il fallait.
Merci Didier Bitati.
Il y a encore des opérations. En tout cas, cela doit cesser.
Merci Didier Bitati. Ernest Kaviro.
Oui, je voulais profiter de cette émission pour dire des choses que je pense être nécessaires. Les positions qui ont été abandonnées par l'ennemi doivent être récupérées par l'armée, mais cette armée doit être appuyée par la police. Moi, j'ai visité le commandement, enfin, l'état-major général de la police ici, et je félicite le général John Numbi, parce que c'est très beau ici à Kinshasa. Il y a des centaines qui circulent ici. Mais moi, je pense qu'on devait prendre une bonne partie des policiers qui n'ont pas beaucoup à faire ici à Kinshasa, et les amener dans des zones pour empêcher à ce que les FARDC ne soient en même temps de faire, en train de faire la police et l'armée. Alors là, ça devient compliqué. Deuxième chose, nous avons une zone qui appartenait au patrimoine mondial, vers laquelle on a tendance à toujours à envoyer des forces négatives, je parle du parc national de Virunga. Aujourd'hui, on est en train de menacer de retirer ce parc du patrimoine mondial parce que le cheptel, si on peut le dire, les animaux commencent à diminuer en nombre, ce n'est plus intéressant. Et même nous avons une année pour que nous ne puissions pas être retirés du patrimoine mondial avec toutes les conséquences qui peuvent suivre. Comment expliquez-vous qu'on puisse s'attaquer d'abord aux paysans, les gens qui sont à côté de Mayango, à Beni, les gens qui ont été arrêtés, qui ont été amenés à Mounde avant-hier. Et aujourd'hui, j'étais avec le ministre de l'Intérieur pour lui dire, je pense que l'approche pour protéger le parc, c'est utiliser les populations pour protéger le parc et non se trouver tous les prétextes pour les anéantir, pour les arrêter.
Donc,
ceux qui tuent ces parcs, ce sont les bandes armées étrangères qui exterminent systématiquement nos richesses naturelles. Il faut faire très attention à cela. Et entre-temps, puisque nous parlons de l'approche, puisque nous devons
amener la paix des cœurs après la paix des armes, il est nécessaire que nous puissions arriver à changer le discours, même au niveau des familles. Vous savez, moi, je vais vous dire la vérité, je suis très sincère, il n'est pas normal que nous puissions voir le chef de l'État venir de Kinshasa. Il est à Goma, nous, les notables du Nord, qui vous nous sommes dans des hôtels, lui, il est sous la tente, et vous apprenez qu'il y a eu des tracts pour demander à ce que les Nandes retournent à Boutembo, à Lubero. Non, ça montre qu'il y a des gens qui peuvent allumer ces styles. Je suis sûr que ce ne sont ni les Hutus, ni les Tutsis, ni les Nandes, mais des petits groupes de gens qui veulent toujours rentrer à
l'histoire
ethnique là, et qui ont fait couler tant de larmes. Ce sont des gens qu'il faut isoler. Et cela demande une approche globale, comme l'approche qu'on utilise contre le sida. Parce que la situation des FDLR, au niveau du
Congo,
a créé une situation qui ressemble beaucoup à celle du sida dans un organisme humain. Il faut une approche globale.
Ernest Kadiro.
C'est une approche où il n'y a pas d'avoir des
Ernest Kadiro, s'il vous plaît.
C'est un problème. Il y a des officiers de grande valeur comme John Numbi, il y a.
Monsieur le député national.
John Kibangu.
Ernest Kadiro.
Il faut que nous puissions travailler ensemble.
Ernest Kadiro. Permettez-nous, hein, comme je l'ai dit à Didier Bitaki, permettez-nous de dialoguer, ça aide, hein, les auditeurs à avoir un peu plus de lumière. Si vous monopolisez la parole, on ne pourrait pas se comprendre. Colonel Jean-Paul Dietrich, au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUC hier, M. Landos, le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies en RDC, a révélé l'arrivée progressive dès mercredi de 200 casques bleus bangladais à Bounia. Ils font partie des 3000 hommes de troupes que la RDC attend toujours pour le renforcement du dispositif sécuritaire à l'est du pays. En quoi ces hommes peuvent-ils être utiles, hein, dans la pacification de l'est?
Bon, comme vous le savez, on a la plupart de nos hommes déjà déployés à l'est, soit dans la province orientale et dans les deux Kivu. Quand on doit réagir à des événements d'urgence, on n'a plus les moyens pour être proactif. On peut seulement toujours réagir, mais pas agir. Et quand il faut effectivement soutenir les FARDC dans les zones plus reculées, on n'a aucun moyen jusqu'à présent de les suivre, parce qu'on est quand même déployé dans une cinquantaine de bases, ou selon lesquelles, depuis lesquelles, on protège un grand nombre de personnes. Donc la MONUC produit jour par jour de la sécurité pour des milliers de personnes dans ce pays. Il faut pas l'oublier.
Mais que font les 3000 autres personnes? Pourquoi la MONUC tarde à mobiliser ces 3000 personnes? Ou bon, ces 2800 qui restent encore?
Effectivement. Vous savez, le système des Nations Unies, quand il faut effectivement mobiliser des forces, est très très lent. Donc effectivement, il nous a fallu presque une année pour que ces premiers éléments arrivent. Donc finalement, il y aura un bataillon d'infanterie de l'Égypte, un bataillon d'infanterie du Bangladesh, dont les 150-108 ans plus tôt font partie. Il y aura aussi des forces spéciales de la Jordanie, et on espère surtout sur l'arrivée de plus que 200 instructeurs de la Tanzanie qui vont appuyer les FARDC à former leur armée, parce que pour le moment, cette armée, c'est une institution de transition. Et il y a beaucoup des éléments intégrés qui n'ont bénéficié aucune formation. Et comment pouvez-vous faire des opérations? Comment pouvez-vous agir comme armée sans vraiment des soldats bien formés, bien éduqués?
Et à ce jour, en quoi consiste cet apport de la MONUC au FARDC? Est-ce qu'il y a, par exemple, des militaires de la MONUC qui sont sur les terrains des affrontements?
Bon, notre soutien est surtout un soutien logistique. Les opérations sont menées par les FARDC, c'est vrai, mais notre soutien logistique est très important. Il consiste à fournir la nourriture, à transporter les FARDC dans leurs positions, à fournir aussi la benzine. En cas d'évocation, donc on a déjà eu 50 cas depuis cette année, on évacue les militaires blessés, et depuis une année, on a fourni aux FARDC plus que 1000 heures d'hélicoptères pour leurs besoins.
Alors, avant de poursuivre cette émission, juste rappeler que nous parlons de l'évaluation des opérations Kinia 2. Le commandant des forces de la MONUC, le général Babacar Gaye, salue le progrès significatif de ces opérations. Quel est à ce jour le bilan de ces opérations? Quels sont les mécanismes mis en place pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones jadis occupées par les FDLR? Nos invités dans ce débat sont colonel Jean-Paul Dietrich, porte-parole militaire de la MONUC, Ernest Kaviro, député national RCDKML, parti membre de la majorité présidentielle, Didier Bitaki, membre du comité national de suivi des accords de Goma et porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu. Avant d'aborder la deuxième partie, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Que faut-il pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones jadis occupées par les FDLR? Colonel Jean-Paul Dietrich, je commence par vous. Comment la MONUC peut aider le gouvernement à restaurer son autorité dans les territoires conquis par les FRDC?
Bon, je crois qu'on peut donner déjà un support d'instruction pour les PNC, parce qu'à un moment donné, c'est la police qui doit en fait garantir l'autorité étatique dans ces régions. L'armée doit avancer, et l'armée est trop petite pour rester et pour protéger des villages, même qu'elle l'ait fait, parce que l'armée, les FRDC pour le moment, ils ont une double approche, donc avec un nombre de troupes, ils font les opérations, avec l'autre, ils protègent des localités très vulnérables. Mais pour effectivement assurer que ces zones sont vraiment sécurisées, il faut une grande présence de police.
Ernest Kaviro, vous parliez déjà aussi d'une présence de l'armée assistée par la police.
Oui, vous savez, on ne peut pas donner à l'armée la même mission que la police. Dans la formation militaire, on apprend à tirer pour détruire l'ennemi ou le neutraliser. Dans la police, on apprend à l'homme à vivre d'une manière légale avec la population et de protéger cette population et ses biens. Et donc, la police est vraiment indispensable. Partout, quand je passe dans les villages au nord qui vous, je sens l'absence de la police. Et même si vous avez un administrateur, un chef de quartier, un chef coutumier, s'il n'a pas la police, il est complètement paralysé. Il faut, comme on a beaucoup de policiers ici, moi je dis vraiment clairement, il faut qu'on envoie des policiers au Nord Kivu. Et cela permettra aussi à la longue, à la démilitarisation du Nord Kivu, parce que nous n'allons pas rester avec des dizaines de brigades dans la province jusqu'à la fin des temps. J'estime aussi, au-delà de cela, moi j'estime que quand nous sommes en train de faire ces opérations, nous devons détruire les circuits des complicités et les circuits économiques des FDLR. Parce qu'il y avait tout un tas de gens qui vivaient derrière cette affaire. Tous ces gens, ils peuvent avoir le plaisir de nous saboter comme on nous a saboté avec les tracts quand le chef de l'État était à Goma. Tout ce que je peux dire pour ne pas monopoliser la parole, c'est que la tâche qui a été commencée est noble. Les résultats sont bons, mais il faut que nous puissions la terminer. Sinon, nous aurons pensé terminer les problèmes, mais nous aurons créé un autre aspect des problèmes. Enfin, il ne serait pas possible, si les communautés, les familles même, ne changent pas de langage, ne s'acceptent pas totalement, que nos fils et nos filles se marient, qu'on ne puisse pas dire tel est porté malheur, tel est fraudeur ou quoi, nous sommes en train de perdre le temps et nous faisons reculer l'équipe.
Didier Bitaki, vous venez de suivre le colonel Jean-Paul Dietrich ainsi que Ernest Kaviro. Ils sont pour l'instruction de la police, mettre sur pied l'armée assistée par la même police, détruire le circuit commercial instauré par les FDLR. Votre point de vue?
Bon, écoutez, je dirais que pour mettre fin à ce genre de situation, de confusion qui règne sur le terrain, je crois que la meilleure façon de résoudre ce problème, c'est la restauration de l'autorité de l'État, le mot qui convient.
Comment cela?
Lorsqu'on parle de restauration de l'autorité de l'État, on voit l'installation de la police, on voit l'installation des chefs coutumiers, donc des chefs locaux, et de l'administration publique. C'est-à-dire, si cette restauration de l'autorité de l'État ne se fait pas, Sur les terrestres, ce sont les militaires qui vont toujours occuper. Mais lorsque les militaires sont déployés ailleurs, qui reste? Ni l'autorité civile doit fuir, et l'autorité plutôt civile doit fuir, et l'autorité, je ne sais pas de quel genre, tous ces gens-là doivent fuir avec la population. C'est-à-dire, lorsque le FARDC récupère une position anciennement occupée par l'FDLR ou un autre groupe, je crois immédiatement que le gouvernement devait prendre le courage de déployer un administrateur, un chef de poste, un chef de quartier, un chef de centre, suivi par la police et protégé par la police. Mais lorsqu'on laisse la population, peut-être qu'elle venait d'être libérée, par manque de moyens de fuite, elle reste là avec le militaire. Lorsque le militaire ira au fond, la population reste, ce sont encore les ennemis, ce sont les bandits qui viennent de stabiliser cette population. C'est pourquoi, je vous donne un exemple par exemple, vous voyez au niveau de Massissi, il y a un commandant FRDC qui, à la suite des débordements de certains bandits qui se sont déguisés en FDLR, devaient sécuriser toute la population. Je crois que vous avez appris le massacre qui s'est passé d'Aroufamand du premier ici. Le chef Koutini avait donné les rapports. Ce sont des bandits qui sont venus déstabiliser la population parce que l'FDLR avait récupéré certains villages et puis ils se sont retirés. À ce moment-là, l'FDLR, après avoir fui, le FDLR se retire. Il y a d'autres groupes qui s'installent et qui agissent comme des FDLR. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y avait pas d'autorité civile, il n'y avait pas d'autorité policière, que ces gens profitaient de la force pour sécuriser de plus cette population. Je pense que la meilleure chose, la meilleure façon de procéder, c'est de faire suivre les militaires de l'administration publique et la police derrière. Et si on continue toujours dans ce cycle, je crois qu'on tournera toute la RDC, mais on ne trouvera toujours pas de solution pour stabiliser la population qui a besoin de cette paix.
Merci Didier Bitaki. Il nous reste 4 minutes pour terminer cette émission. Je vais vous demander des réponses très brèves hein, pour permettre aux auditeurs de vous comprendre. Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Il y a Guillaume de Mahagui qui regrette le manque de lumière à propos des chiffres sur les FDLR. Emina Bassinde de Mbandaka propose que l'on motive les militaires chargés de traquer ces FDLR pour voir un succès de ces opérations. Colonel Jean-Paul Dietrich.
Bon, j'ai déjà parlé des chiffres, c'est vrai, ce sont que des estimations. Oui, je m'arrête là.
Simplement. Alors, il y a également, toujours colonel Jean-Paul Dietrich, Jules de Bukavu, au sud Kivu, qui pense que les opérations Kimia sont un échec parce qu'il ne se passe pas un jour à Bukavu sans que des cas d'assassinat soient signalés, ce qui n'était pas le cas avant.
Non, on peut dire que l'insécurité qui règne dans le nord et le sud Kivu n'est pas seulement liée à l'opération Kimia 2, pas du tout.
Ernest Kiaviro, un mot hein, par rapport à ces quelques réactions des auditeurs.
Non, je confirme qu'il est nécessaire que nous puissions avoir une approche qui arrive à attaquer les véritables problèmes. Et je soutiens qu'il est nécessaire que nous puissions doter ceux qui font les opérations des moyens policiers importants. Deuxièmement, je pense que le fait qu'il y ait des criminels en dehors des zones où il y a les FDLR montre qu'il n'y a pas que ce problème, mais il faut une approche plutôt globale. Et enfin, pour ne pas user ou abuser de votre temps, je voudrais faire une observation par rapport au climat général. Si aujourd'hui on arrive à déplorer certaines choses, c'est parfois parce que nous ne partageons pas très bien l'information entre nous, parce que moi j'estime qu'il aurait été nécessaire, à partir de Oumodjawetu, de préparer suffisamment les esprits. Maintenant que nous avons fait un petit pas, il est nécessaire que nous puissions compléter ce travail, mais mon cri restera le même. Travaillons ensemble. Et pour arriver à terminer cette affaire des FDLR, des groupes armés, tout ça, il faut que chacun puisse dire la vérité, la même vérité qu'il dit dans sa maison, qu'il dit dans sa réunion tribale, qu'il la dise aussi à la radio.
Ernest Kiaviro, vous êtes député national. Qu'est-ce que vous comptez faire d'ici cette rentrée parlementaire pour que le budget soit revu à la hausse en ce qui concerne l'armée et la police?
Mon combat a toujours été que les policiers et les militaires aient au moins 100 dollars avec notre budget de 2009. Ça n'a pas été. Maintenant, je vais continuer en disant que tous les policiers qui sont ici à Kinshasa et partout dans les grandes villes soient amenés là où ils ont beaucoup de travail.
Merci, vous l'avez dit.
Terminer en disant
merci.
Le fait de déployer les militaires, les policiers et les autres ne sert à rien si les cœurs de nous, les élites qui vous tiennent, portent encore des stigmates.
Merci. Didier Bitaki, en 30 secondes, votre conclusion.
Et en 30 secondes, je ne saurais pas le dire, mais je vais dire quand même l'essentiel. Premièrement, pour qu'il y ait la paix à l'Est, d'abord l'intégration par laquelle tous les groupes armés sont passés, doit être inclusive et non exclusive, comme on l'avait planifié au départ et comme les gens le pensent aujourd'hui.
Merci.
Deuxième chose, pour qu'il y ait la paix à l'Est, il faudra qu'on se dise à toute franchise, qu'on se dise des vérités par rapport à l'implication de l'un ou l'autre dans ce qui se passe, dans cette tragédie de l'Est.
Merci.
Et la troisième chose, c'est que j'appelle les gens à dire la vérité sur l'Est et non pas se voiler, se cacher derrière des rapports qui ne reflètent pas la vérité ou la réalité
Merci.
Que la population a sur le terrain.
Merci, colonel Dietrich. Juste un mot de conclusion.
Bon, restez ensemble et combattez-vous pour un meilleur combat.
Merci, c'est la fin de cette émission. Kevin Koutier, assisté de Dimas et Samuel Kachak et Jean-Claude Ntumba Kamanga, ont réalisé cette émission. Coordination de Ben Kabamba, mise en onde de Willem Lungamba, présentation Alain Irung. Bonne suite au programme sur Radio Capi.